Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Caroline Protam, aussi Mélanie Chalandon, Margot Leridon et Clément Perrier, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Marie-Claire Oumabadi. Nouvelle série consacrée donc au christianisme orthodoxe et aux enjeux politiques et géopolitiques de ce monde extrêmement fragmenté. On va le voir demain, nous parlerons du patriarcat de Moscou, de son chef de file Kirill, l'ancien membre du KGB comme le président Poutine dont il est très proche. Nous parlerons de l'église de Constantinople, une des premières églises chrétiennes et dont la place est tout à fait singulière bien que la communauté de ses fidèles soit relativement restreinte. On ira également du côté de l'Afrique, en Éthiopie précisément, où l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde est en prise avec une guerre civile tragique. Mais pour commencer, direction l'Ukraine.
C'est quoi une église? C'est l'esprit et le cœur d'un peuple, d'une nation. Or, ce cœur se trouvait à Moscou, loin des frontières de l'Ukraine. Vladimir Poutine et le patriarche de Moscou, Kirill, parlent d'un seul homme et leurs paroles n'apportent pas la paix en Ukraine.
Je rajouterais que si le patriarcat de Moscou en Ukraine se considère comme ukrainien, alors il ne devrait pas vénérer le patriarche russe Kirill, qui bénit les armes qui tuent nos concitoyens. S'ils font ça, c'est qu'ils ne sont pas une église ukrainienne.
Notre métropolite a fait une déclaration pour exhorter le représentant de l'église orthodoxe russe à faire tout ce qui était en son pouvoir pour arrêter l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. Malheureusement, non seulement nous n'avons vu aucune action dans ce sens de la part du patriarche Kirill, mais nous n'avons pas non plus reçu de réponse.
Le 27 mai dernier, le concile de l'église orthodoxe ukrainienne dépendante du patriarcat de Moscou a décidé de rompre avec son église mère en actant sa pleine indépendance et autonomie, je cite. Dans le contexte de la guerre et compte tenu du soutien affiché du patriarche Kirill à l'invasion militaire russe, cette seconde branche de l'orthodoxie ukrainienne a choisi de se détacher de la Russie. À l'instar de l'église d'Ukraine sous patriarcat de Kiev qui avait déjà rompu il y a de longues années, obtenant officiellement son autocéphalie par le patriarcat de Constantinople en 2019. Ces tensions entre les églises orthodoxes ne sont pas nouvelles à l'Est et sont même au cœur de tensions politiques et religieuses passées et présentes entre la Russie et l'Ukraine. Alors à quand remontent ces tensions entre la Russie et l'Ukraine dans ce monde de l'orthodoxie chrétienne? Quelle forme prennent-elles? Pourquoi et comment l'église est-elle devenue un instrument politique? Comment est-il mis au service de la construction de l'État-nation ukrainien? Pour évoquer ces enjeux et beaucoup d'autres, nous avons invité ce matin Antoine Arjakovski. Bonjour Antoine Arjakovski.
Bonjour Florian.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, co-directeur du département recherche politique et religion du Collège des Bernardins. Vous venez de signer aux éditions du Cerf « Qu'est-ce que le communisme ?» point d'interrogation. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler parce que peut-être qu'il y a aussi de ce projet-là chez les autorités de Kiev. On va parler de cette rupture du synode de l'Église orthodoxe d'Ukraine dont je viens de parler dans mon introduction, mais avant de commencer, avant de prendre l'antenne, vous me disiez, il faut absolument qu'on commence par un peu de définition. Vous allez nous proposer une définition de l'orthodoxie chrétienne et nous dire pourquoi c'est si important avant de commencer cette série.
Oui, c'est important de parler d'abord de ce que c'est que l'orthodoxie, parce que d'une certaine façon, on est dans une période de changement de paradigme. Depuis le XVIe siècle, toutes les églises chrétiennes se disent orthodoxes, catholiques, protestantes et orthodoxes, simplement... Les églises orientales définissent l'orthodoxie de façon différente des catholiques et des protestants depuis 4 siècles. Les églises orientales définissent l'orthodoxie comme la mémoire fidèle aux 7 conciles œcuméniques. Tandis que, en Occident, ce paradigme de l'orthodoxie, de mémoire fidèle, ça a été en premier lieu la mémoire fidèle au pape, ça c'est pour les catholiques, et la mémoire fidèle aux écritures, ça, c'est pour les protestants. C'est le critère premier. Mais avant le XVIe siècle, il y avait d'autres façons de concevoir l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est pas simplement la mémoire fidèle, c'est aussi la juste glorification. C'est une façon, par exemple, de dire le credo, je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. C'est aussi la connaissance de justice et c'est aussi la vérité droite. C'est 4 définitions de l'orthodoxie. Et pourquoi c'est important de dire ça? C'est que la communion des églises orthodoxes, c'est 15 églises autocéphales dans le monde, une dizaine d'églises autonomes dans le monde, et puis la diaspora orthodoxe, elles sont unies par ces quatre pôles de la foi, la gloire, la mémoire, la loi et la justice. Et certaines de ces églises sont plus, je dirais, dans la mémoire, cette fameuse mémoire au concile œcuménique, et du coup ne bougent pas. Ce qui est important, c'est d'être fidèle à Moscou, d'être fidèle à Constantinople, etc. Tandis que pour d'autres, dans cette définition du gouvernail de la foi, c'est ça que ça veut dire l'orthodoxie, le gouvernail de la foi, eh bien, il y a aussi la justice. Et la justice, ça a une dimension politique. Ça permet de construire la nation.
Alors, c'est dans ce contexte, Antonin Arjakovski, dans ce décor, que le 27 mai dernier, donc très récemment, le synode de l'Église orthodoxe ukrainienne a décidé de rompre avec Moscou, se déclarant en désaccord avec, je cite, « la position du patriarche Kirill de Moscou sur la guerre en Ukraine ». Pourtant, pendant des années, cette Église orthodoxe ukrainienne, elle est restée très liée à Moscou. Malgré l'arrachement de la Crimée, malgré le soutien aux séparatistes du Donbass qui dure depuis des années, alors pourquoi d'un coup, elle décide de rompre? En quoi la situation était devenue insupportable?
Il faut revenir quelques siècles en arrière, cher Florian. On peut pas répondre comme ça rapidement. En fait, les chrétiens en Ukraine, c'est une église depuis 988. Et ça a été administré par Constantinople, donc par Byzance, par les Grecs, jusqu'au XVIIe siècle. Et puis, au XVIIe siècle, il se trouve que l'Empire russe est descendu vers le sud. Il y a eu ce fameux traité de Pereyaslav en 1654, et à partir de 1686, les Russes occupent Kiev. Et donc, l'église de Kiev, il y a une décision qui est prise entre le patriarche de Moscou et le patriarche de Constantinople. On va dire que le métropolite de Kiev va être nommé par Moscou dès lors qu'il reconnaît l'autorité du patriarcat de Constantinople. Ça, c'est 1686, et donc, depuis la fin du XVIIe siècle, une grande partie de l'Ukraine, que les Russes appellent la Petite Russie, va dépendre de cette église que vous avez appelée tout à l'heure l'église mère. Alors qu'en réalité, l'église mère, c'est l'église de Constantinople, on est bien d'accord. Le patriarcat de Constantinople, voyant que la situation à la fin du XXe siècle se détériorait, qu'il y avait des orthodoxes de différentes juridictions en Ukraine, parce que il y a cette église qui avait un maximum de paroisses qui relevait de Moscou, mais qui n'était pas en communion avec le patriarcat avec le patriarcat de Kiev et l'église autocéphale, les deux autres entités apparues dans les années 90. Eh bien, cette église-là, elle a décidé de rester en communion avec Moscou, alors que l'ensemble des chrétiens orthodoxes en Ukraine, la grande majorité, 15 millions de fidèles, avaient reconnu l'autorité du patriarcat de Constantinople pour devenir une église autocéphale.
Antoine Arjakovski, on peut pas refaire toute l'histoire de ce monde-là. Restreignons un tout petit peu la focale. Pendant des années, il y avait eu l'arrachement de la Crimée par l'armée russe. Il y a eu le soutien aux séparatistes du Donbass, et pourtant, cette église orthodoxe ukrainienne, elle restait liée à Moscou. Comment se fait-il que le 27 mai dernier, la situation est devenue insupportable? Si on restreint un peu la focale.
Alors, en restreignant la focale, on comprend qu'il y avait une église, effectivement, qui était fidèle à Moscou, et cette fidélité est devenue intolérable pour trois raisons. La première raison, c'est d'abord que le patriarcat de Moscou, le patriarche Kirill en particulier, a béni la nouvelle invasion de l'Ukraine à partir de février 2022. Et ça, c'était intolérable. Pour ce qui est de l'annexion de la Crimée, il s'était montré discret. Il l'avait avalisé, mais sans apparaître aux côtés du président Poutine. Est-ce que là, il bénit le bombardement des églises du patriarcat de Moscou en Ukraine? Donc ça, c'est juste intolérable. Et Onoufri, le métropolite de Kiev, relevant de Moscou, avait dit c'est une guerre fratricide. C'est pas normal que Kirill bénisse cette invasion. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que du coup, beaucoup de paroisses de cette église, dépendant du patriarcat de Moscou, sont passées à l'église autocéphale, à l'église d'Ukraine. Et là, en trois mois, plus de 400 églises ont changé de juridiction. Donc, à ce rythme-là, à la fin de l'année, il y avait plus grand monde au sein de cette métropole relevant de Moscou. Et puis, la troisième raison, c'est que l'État a fait pression sur cette église orthodoxe ukrainienne relevant de Moscou, en disant, mais attendez, c'est pas normal, on voit qu'il y a pas mal de vos monastères, de vos églises, qui donnent des renseignements à l'ennemi. Et effectivement, il y a eu des preuves, dans le Donbass en particulier. Donc attention, parce que si vous voulez pas qu'on vous considère comme la cinquième colonne, faites quelque chose par rapport à vos statuts. Donc ils étaient sous pression politique. Et donc c'est la raison pour laquelle, le 27 mai, ils ont dit, nous c'est fini, on veut plus rien avoir avec le patriarcat de Moscou. Et cette église a changé dans ses statuts. Tout ce qui était en rapport avec Moscou a été éliminé. En s'appuyant sur un texte de 1990 que l'ancien patriarche Alexis II avait accordé, en 1990, il avait dit « l'église d'Ukraine est une église ». Bon, ils n'ont pas véritablement d'indépendance, mais ça elle fonctionne comme une église. Et donc, ils ont utilisé ce texte-là, mais simplement, ils ont élargi l'interprétation en disant « nous, on va fonctionner maintenant comme une église autocéphale. Indépendamment de Moscou, on va se lancer dans l'aventure d'une église locale ».
S'agissant des pressions, Antonin Arjakovski, peut-être peut-on en dire un tout petit peu plus. Quand je dis les pressions, c'est la pression des autorités ukrainiennes sur les communautés orthodoxes sous la juridiction du patriarcat de Moscou. Il y a eu des projets de loi en particulier. Peut-être on peut en dire un mot.
Oui, un projet de loi, mais qui n'a pas pour l'instant été développé au sein de la Rada, mais qui effectivement posait la question de savoir comment est-ce possible que cette église puisse relever du centre de décision qui se trouve à Moscou, alors que Moscou est le pays agresseur. C'était ça le problème. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont enlevé toute référence avec le pays agresseur.
Antonin Arjakovski, ça fait des mois que l'on entend parfois cette idée selon laquelle, malgré les tensions entre Kiev et Moscou, malgré même la guerre, on aurait encore de nombreux Ukrainiens qui ne seraient pas opposés au régime russe, qui ne seraient pas opposés à l'idée d'une emprise du Kremlin sur Kiev. Est-ce qu'on peut considérer que cette rupture dans le champ religieux acte le fait que ce temps-là est terminé et que la rupture est désormais totale?
Alors, la rupture, dire qu'elle est désormais totale, je ne sais pas, parce que Moscou va s'accrocher pour essayer de garder cette église qui représente un vivier très important pour elle, en d'abord en financement, mais aussi en séminaristes, et puis en prestige international. Donc, on a vu déjà que après la décision du concile de cette église le 27 mai, Moscou a réagi en annexant la juridiction de cette église orthodoxe ukrainienne sur la Crimée, par exemple. Ça veut dire trois diocèses d'un coup qui sont passés, alors qu'ils relevaient de cette église orthodoxe ukrainienne de Moscou, ils sont passés directement à Moscou. Donc ça veut bien dire que Moscou cherche à punir l'église orthodoxe ukrainienne pour cette décision. C'est la même chose dans le Donbass. En gros, dans tous les territoires occupés d'Ukraine, le Donbass, la Crimée et maintenant la région de Kherson qui est occupée par l'armée russe, eh bien, le patriarcat de Moscou dit « ce sont nos paroisses et elles font pression sur les évêques de ces diocèses pour qu'ils soient rattachés directement à Moscou et qu'ils passent plus par l'exorde du... » Donc ça c'est un premier problème, mais c'est clair que à l'intérieur de l'Ukraine indépendante, ça va être de plus en plus compliqué de trouver des gens qui vont continuer à vouloir se référer à Moscou. Le moment que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment la formation d'un État-nation ukrainien qui veut être indépendant des différents centres extérieurs. Sur le plan religieux, au siècle dernier, les orthodoxes dépendaient soit de Constantinople, soit de Moscou, et les gréco-catholiques de Rome. Et donc l'Ukraine finalement avait du mal à se positionner comme étant un centre décisionnel, et donc comme une nation. Là, c'est tout l'inverse. On s'aperçoit que les gréco-catholiques insistent de plus en plus sur le fait qu'ils forment l'église de Kiev. C'est la raison pour laquelle le cardinal Gouzard, en 2005, avait déplacé sa capitale à Kiev, en disant « nous, on vient de Kiev, on vient pas de Galicie ». C'est la raison pour laquelle l'église orthodoxe du patriarcat de Kiev est devenue église autocéphale avec sa capitale à Kiev. Et c'est la raison pour laquelle maintenant l'église orthodoxe ukrainienne relevant de Moscou dit « nous, on est de Kiev, on n'est pas de Moscou ». Donc c'est la participation à la formation d'une nation.
Ce qui est vraiment très important, parce que vous le disiez, cette branche de l'orthodoxie ukrainienne qui était encore rattachée à Moscou, elle était très importante en termes de paroisses, en termes de monastères, en termes de diocèses, peut-être pas en termes de fidèles, parce que je crois que la plupart avaient déjà choisi en réalité l'église autocéphale d'Ukraine. Mais ça signifie donc aussi qu'il y a un effet, vous parliez de prestige tout à l'heure du patriarcat de Moscou. Jusqu'où cette rupture avec l'orthodoxie ukrainienne affaiblit précisément la position de Moscou dans ce paysage du monde orthodoxe?
Oui, Moscou apparaît affaibli.
Isolé.
En 2016, le patriarche Kirill ne s'était pas rendu au concile panorthodoxe de Crète, qui était censé régler les problèmes au sein de l'Église orthodoxe qui n'étaient pas résolus depuis 3 siècles. Et à la dernière minute, il n'était pas venu. Ça avait été un affront pour le patriarche Bartholomée de Constantinople. Et ça avait été aussi, ça a eu comme conséquence que la question qui était à l'ordre du jour de ce concile, c'était comment on proclame une autocéphalie. Et notamment, on savait que le problème qui allait venir, c'était l'Ukraine. Et donc, le fait qu'on n'ait pas résolu ce problème-là en Crète, le fait que Kirill ne soit venu par crainte qu'il allait perdre la bataille, eh bien, ça n'a fait qu'encourager Bartholomée, dans sa décision de 2019, de reconnaître cette église autocéphale d'Ukraine. Et, par contre-coup, Moscou a décidé de faire un schisme avec Constantinople, c'est-à-dire que ces deux églises ne sont plus en communion. Et Moscou est même allé encore plus loin. Le patriarche Kirill a dit « Moi, du côté de Sergueïev Possad, je vais créer une petite cité du Vatican, une sorte de lieu dans duquel je vais diriger l'ensemble du monde orthodoxe qui me reconnaîtra comme la véritable force dans l'orthodoxie, le véritable primat. » Et c'est la raison pour laquelle il a commencé à ouvrir des paroisses en Afrique, pour concurrencer le patriarcat d'Alexandrie qui avait suivi Constantinople dans la reconnaissance de l'église d'Ukraine. Donc il se pensait comme une église mondiale avec son centre à Sergueïev Possad qui allait dominer le monde orthodoxe et au bout du compte le monde chrétien, parce que l'idée de troisième Rome qu'il porte, c'est vraiment le salut de la terre entière. Et ça s'est effondré à partir du moment où les Ukrainiens ont dit surtout pas, nous on veut pas de ça. C'est une humiliation terrible pour lui, parce que c'est le cœur de sa théorie du monde russe qui part en fumée.
C'est une défaite stratégique aussi dans ce domaine-là. Antoine Arjakovski, quelle est la suite maintenant pour le synode de l'Église orthodoxe ukrainienne? Il y a deux voies pour ce concile, celui de l'autocéphalie, celui de l'autonomie. Alors, sur les deux points, je voudrais que vous nous ayez dit un petit peu, parce que d'abord il y a des choses à préciser sur les modalités dans la perspective où on se dirigerait vers l'autocéphalie, parce que comme vous le disiez, il y a beaucoup de débats, de modalités différentes. Et puis, il va falloir faire aussi ce travail sur la question de l'autonomie, parce qu'en réalité, je ne sais pas exactement si ce concept existe dans le monde orthodoxe, alors même qu'il a été mis en avant précisément par ce synode ukrainien. Alors, aidez-nous à comprendre ce qu'est la suite, ce que peut être la suite.
C'est vrai que dans le monde orthodoxe, c'est des concepts qui sont moyennement travaillés et justement qui devaient être travaillés lors du concile panorthodoxe de 2016. Mais en gros, ce qu'on sait, c'est que pour qu'une église soit autocéphale, c'est-à-dire pour qu'elle soit suffisamment mûre pour être capable d'élire son propre primat sans l'avis d'autres églises, il faut l'aval de Constantinople. Ça veut dire il y a pas d'église autocéphale parmi les 15 églises orthodoxes dans le monde qui n'aient obtenu leur autocéphalie sans l'aval de Constantinople. Donc ça, on sait que c'est indispensable, et ça pose un problème pour l'actuelle église orthodoxe ukrainienne qui fait, on l'a dit, 5 millions de fidèles par rapport à l'église orthodoxe d'Ukraine qui, elle, est autocéphale déjà, et elle fait 15 millions de fidèles. Ça pose un problème parce que cette église orthodoxe ukrainienne relevant de Moscou, elle a suivi Moscou dans toutes ses décisions depuis 2018-2019, elle a donc rompu avec Constantinople. Donc pour qu'elle reçoive cette autocéphalie, c'est-à-dire en gros pour qu'elle se réconcilie avec l'autre église,
il faut qu'elle se rabiboche avec Constantinople.
Il faut qu'elle se rabiboche avec Constantinople. Donc là, pour l'instant, c'est pas gagné, parce que les tensions sont fortes entre ces deux églises qui, depuis 30 ans, ont eu du mal à communiquer.
Et est-ce qu'une fusion entre les deux branches de l'orthodoxie ukrainienne est possible?
Alors, ben justement, c'est ce que les gens un peu rationnels espèrent, parce que en gros, ils sont tous pour l'Ukraine, ils sont tous pour un renouveau de l'orthodoxie, ils sont même en faveur d'un dialogue œcuménique. Mais encore une fois, je le disais, les relations entre les hommes ont fait que depuis 30 ans, il y a eu des tensions très fortes, au point qu'il y a quelques années, l'Église orthodoxe ukrainienne ne reconnaissait pas le baptême même des fidèles de l'Église orthodoxe d'Ukraine. Donc ça veut dire qu'il y a du chemin à faire. Et en plus, il y a des méfiances du côté de cette Église autocéphale, donc dont le primat, le métropolite Épiphanie, est assez jeune et dynamique, mais en regardant les statuts, sa réaction, c'est de dire bon, vous vous déclarez indépendant par rapport à Moscou, mais qu'est-ce qui nous dit que demain, si Moscou revient à Kiev et domine Kiev, vous n'allez pas immédiatement rajouter le nom du patriarcat de Moscou dans vos statuts. Voilà, il y a une histoire de confiance qui, pour l'instant, manque. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut absolument permettre à ces deux églises de se parler, de discuter.
Mais c'est pas qu'une question de personne.
C'est pas uniquement le problème entre le métropolite Épiphanie, église autocéphale, et le métropolite Onoufri, église qui jusqu'à présent relevait de Moscou. C'est deux églises, l'une qui est plus jeune, qui prie en ukrainien, et depuis longtemps, et qui a des liens avec la diaspora ukrainienne aux États-Unis surtout, et en Occident, et qui donc est plus démocratique. Et puis une autre église qui reste dans le logiciel soviétique de l'Homo Sovieticus, qui est dans cette mémoire fidèle dont je parlais au début, c'est-à-dire qui veut pas bouger les normes, qui veut être dans les clous de l'orthodoxie, qui a donc un peu moins d'audace, et qui prie en vieux slavon, c'est donc une église plus âgée, et qui est un peu plus méfiante par rapport à l'Occident.
Quand on regarde, Antoine Arjakovski, la liste des églises autocéphales, vous avez dit il y en a une quinzaine, reconnues ou non reconnues, beaucoup d'entre elles s'appuient sur des entités nationales. Église orthodoxe d'Ukraine, de Slovaquie, d'Albanie, de Pologne, de Serbie, Roumanie, Bulgarie, etc., etc. Est-ce qu'on peut dire que toutes ont participé à un moment ou à un autre à la construction de la nation à laquelle elles se rapportent? Est-ce que finalement, c'est quasiment un passage obligé que celui de construire cette église orthodoxe nationale pour participer à la construction de la nation?
Exactement. C'est exactement ça. En fait, il y a des théologies politiques qui se sont opposées au fil des siècles. Et dans le monde oriental, c'est clair que la théologie politique dominante, ça a été la théologie politique développée par Eusèbe de Césarée, qui était un évêque du 4e siècle et qui avait fait de Constantin le représentant de Dieu sur la terre, l'empereur. Et donc, dans l'Épanagogé, le document qu'avait écrit Phocius au 9e siècle, l'empereur était en charge des corps, le patriarche était en charge des âmes, et il fallait une symphonie entre l'empereur et le patriarche pour que le corps et l'âme soient unis. Donc, il n'y avait pas de division entre le politique et le religieux. Ça, c'est ça qui a donné cette théologie impériale qui a marqué l'histoire de ces églises et de ces pays d'Orient jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une sorte de contre-théologie politique qui s'est affirmée progressivement, d'abord avec la Serbie, ensuite avec la Roumanie, la Bulgarie au XIXe siècle, puis la Pologne et la Tchéquie au XXe siècle, où ces pays-là disaient « nous, on veut pas dépendre de l'Empire », d'abord parce que l'Empire était devenu aussi ottoman entre-temps, on veut former un lien entre le corps de la nation et l'âme de la nation. Et donc, c'est un nouveau modèle qui a été développé en Occident aussi. Philippe le Bel, les rois de France, ont développé un modèle d'église nationale qui a donné le gallicanisme en France et qui s'est opposé à la toute-puissance d'une verticalité à Rome. Et bien, c'est la même chose pour ces églises nationales qui ont voulu ainsi s'opposer et prendre distance par rapport à l'Empire.
Alors aujourd'hui, à la tête de la nation, un certain Volodymyr Zelensky. Écoutez-le, à la veille des célébrations de Pâques, il s'adresse à la nation et il est dans la cathédrale Sainte-Sophie.
Sauvez tous les Ukrainiens. Nous n'avons jamais attaqué personne. Alors, protégez-nous. Nous n'avons jamais détruit d'autres nations. Alors, ne laissez personne nous détruire. Nous n'avons pas saisi les terres des autres, alors ne les laissez pas saisir les nôtres. Nous croyons, Dieu, que dans ton jugement, tu ne les oublieras pas, ceux qui ont oublié tes commandements. N'oublie pas Boutcha, Irpin, Borodianka, Gostomel, tous ceux qui ont survécu à des crimes brutaux.
Face caméra, Antoine Arjakovski, Zelensky, dans la cathédrale Saint-Sophie, qui s'adresse directement à Dieu. Zelensky, il a une petite particularité, c'est qu'il est d'obédience juive. Est-ce que cet élément modifie un peu sa manière d'appréhender ces enjeux, ou est-ce que, comme les autres présidents ukrainiens avant lui, il utilise le monde religieux, le monde orthodoxe, pour participer à ce processus de construction de cette nation ukrainienne?
Comment dire? Les Ukrainiens n'ont pas suivi la même évolution intellectuelle que l'Europe occidentale, qui a été marquée par Kant, par la distinction entre les noumènes et les phénomènes, et par, d'une certaine façon, une sorte d'expulsion de la croyance dans la vie politique. Eux, il avait fait référence à ce philosophe religieux il y a quelques semaines, ils ont été marqués plus par Skovoroda, Grigory Skovoroda, qui est le grand philosophe ukrainien de la fin du XVIIIe siècle, qui est l'équivalent de Voltaire pour eux. Mais lui, la philosophie des lumières ukrainiennes, c'était pas la séparation des noumènes et phénomènes, c'était au contraire le combat spirituel pour permettre à l'intelligence de s'unir au cœur. C'est ça la spiritualité et la rationalité ukrainienne. Et donc, qu'on soit juif, chrétien, musulman, la foi, c'est important. Pas plus tard qu'hier, le premier ministre ukrainien, Shmigal, a fêté la Pentecôte et a félicité tous les Ukrainiens de cette fête de la Trinité. Et donc, on pourrait se dire, mais c'est bizarre dans un... en fait, ça contredit pas la laïcité, la séparation entre le pouvoir politique et les religions. C'est cette idée que on est tous croyants à notre manière, et donc c'est important de s'en souvenir, parce que c'est notre force. Nous, les Ukrainiens, on a tenu face aux empires grâce aux ressources de notre nation. Dans les ressources de la nation, il y a le folklore, il y a plein de choses, mais il y a aussi la religion. Et la religion, c'est ce qui a permis justement à la nation ukrainienne de tenir, y compris pour les Juifs, y compris pour les Tatars de Crimée, et bien entendu pour les chrétiens.
Est-ce que cette perspective que vous décrivez, qui est spécifiquement ukrainienne, est un œcuménisme? Je vous pose la question, vous venez d'écrire un ouvrage intitulé « Qu'est-ce que l'œcuménisme ?». Alors là, vous allez rapidement nous redire ce que c'est. Est-ce que d'une certaine manière, c'est pas cela qu'il y a derrière le modèle ukrainien?
Absolument. C'est ça, c'est pour ça que moi j'ai passé tellement d'années, j'ai passé plus de 10 ans en Ukraine. C'est que voyant une nation se forger depuis 1991 avec les trois Maïdans, le Maïdan du granit pour s'émanciper de l'Union soviétique, 2004 le Maïdan de la Révolution orange pour développer la démocratie, l'État de droit. Et 2014, le Maïdan de la dignité pour dire nous sommes Européens, nous voulons faire partie de la famille des nations européennes. Il y a un État-nation qui s'est constitué, et ce constituant qui a voulu dépasser la théologie impériale, qui a voulu reprendre finalement ce que chez nous on développe avec Ernest Renan, l'idée d'une conscience morale. Et cette conscience morale, c'est ça qui permet d'établir des liens entre différentes traditions confessionnelles, différentes traditions religieuses. Il avait déjà fait la même chose, Zelensky, avant le 24 février. Il y avait eu une journée d'unité nationale à Sainte-Sophie où il avait réuni les différentes responsables de culte pour dire on est tous solidaires, on est tous ensemble pour lutter contre les envahisseurs.
Sachant que cette perspective-là, elle n'est pas... elle est relativement récente. Vous disiez, vous rappelez, vous avez participé à la mise en place d'un institut œcuménique en Ukraine en 2004. À l'époque, c'est vous qui le racontez, c'était pas si facile que ça de parler d'œcuménisme en Ukraine.
Oui.
Ça a changé, ça a évolué.
Ça a évolué. C'est ça qui est magnifique. C'est que, en 2004, on confondait le mot œcuménisme avec le mot communisme. Là, maintenant, ils confondent plus. Ils savent que l'œcuménisme, c'est ça qui leur permet un nouveau modèle, une nouvelle théologie politique qui leur permet d'être fidèles à leur, à l'importance de la croyance pour eux, mais tout en étant partie d'un ensemble européen où les approches sont plus communautaires. C'est le principe de l'Union européenne, c'est justement de pas mettre un pays au-dessus des autres, mais de se réunir en conseil pour décider ensemble et de prendre des décisions. Donc ce modèle-là à la Schuman, sur le plan politique, c'est la même chose sur le plan religieux au niveau œcuménique.
On est avec vous ce matin, Antoine Arjakovsky, dans cette série que l'on entame sur la géopolitique du monde orthodoxe. On va faire un peu de perspective historique. C'est pas l'historien que vous êtes qui va s'en plaindre. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le patriarcat de Moscou, fraîchement rétabli, organise une conférence inter-orthodoxe du côté de Moscou. On est en 1948 pour célébrer le 500e anniversaire de l'autocéphalie de l'Église de Russie. On va y revenir.
Ваше святейшество, преосвященные архипастыри, всечестные отцы и братья и все благочестивые собрания для нашего церковного сознания.
Une réunion religieuse, bien sûr, mais avec une dimension politique extrêmement forte à l'heure où se construit cet ordre post-Seconde Guerre mondiale. Bonjour Laura Pettinaroli.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de la section moderne et contemporaine de l'École française de Rome. Vous êtes beaucoup intéressée à cette conférence inter-orthodoxe à Moscou en 1948. Je le disais, à un moment très particulier, puisque est en train d'advenir ce nouvel ordre international. Le pouvoir soviétique, il vient tout juste de rétablir le patriarcat de Moscou, hein, quelques années plus tôt, c'était en 1943, jusqu'où le régime soviétique est à la manœuvre dans cette conférence de 1948.
Alors, je pense que la première chose, c'est peut-être de rappeler un tout petit peu les étapes précédentes, parce que c'est vrai qu'en 1943, le pouvoir soviétique ne rétablit pas le patriarcat. Hein, c'est une histoire un petit peu plus longue, je suis désolée, sur laquelle il faut revenir. C'est-à-dire que le patriarcat de Moscou, il a une longue histoire. Cette autocéphalie, c'est-à-dire cette autonomie de gestion interne de l'Église, elle date déjà du 15e siècle, hein, 1448, qui est une date importante, évidemment, pour 1943. Puis le patriarcat de Moscou, il se structure progressivement à la fin du XVIe siècle, 1589, c'est la date qu'on retient en général pour la proclamation du patriarcat de Moscou. Et ce patriarcat de Moscou, il est assez rapidement, dès le XVIIIe siècle, entre 1721 et 1917, mis en sommeil quelque part. Il n'y a plus de patriarche, mais une gestion collective par le Saint-Synode. Donc, c'est-à-dire que les tsars eux-mêmes reprennent beaucoup d'influence sur la gestion de l'Église orthodoxe russe. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et en fait, le rétablissement du patriarcat de Moscou, c'est 1917. Au moment du Concile de Moscou, le patriarcat est rétabli, on est en pleine période de révolution, un patriarche est nommé, Tikhon, qui va rester en place jusqu'à sa mort en 1925. Et là, il faut bien comprendre qu'à sa mort, il n'y a pas de possibilité de nommer un successeur, on est dans un contexte de persécution de l'Église orthodoxe russe, comme d'ailleurs des autres confessions religieuses. Le trône reste vacant, et c'est là qu'on arrive en 1943, la date que vous mentionnez,
ouais, entendu.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a véritablement un rétablissement du patriarcat, avec un nouveau patriarche qui est nommé Serge Ier.
Un processus voilà, dans lequel, un processus, vous avez raison de préciser, mais un processus dans lequel Staline s'implique très fortement. D'ailleurs, il faut peut-être préciser que Staline, il organise ce retour, mais tout le monde n'est pas d'accord au sein du pouvoir. Il y a d'ailleurs des débats sur la question du financement du film dont on vient d'entendre un petit extrait qui va couvrir l'événement. Un débat sur la manière dont il convient de couvrir cet événement dans la presse. Il y a une bataille interne en réalité à cette époque-là.
Exactement, oui. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Staline s'implique personnellement en 1943 et pour justement réorganiser cette église orthodoxe russe sur le territoire national qui était quasiment exsangue. Hein. Il n'y avait plus que quelques évêques en liberté. La plupart des églises étaient fermées, les structures de formation, etc. Donc oui, le pouvoir soviétique, on est en pleine grande guerre patriotique, va s'appuyer en fait tout simplement sur l'église orthodoxe pour faire de la cohésion nationale. Et elle est bien présente. Cela suscite d'ailleurs des tensions internes qu'on réussit à percevoir grâce aux archives russes, tout simplement. Bon, mais malgré tout, la ligne directrice, au moins jusqu'à la fin des années 50, ce sera quand même un soutien du pouvoir politique à l'Église orthodoxe, avec par exemple la réalisation de ce film célébrant la rencontre interorthodoxe de 1948, et puis plus largement un soutien pour la restauration d'un certain nombre d'églises, de structures d'institutions de formation sur le territoire national. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, ce qui se passe sur place pour les orthodoxes en Russie, et puis cette activité internationale du patriarcat de Moscou qui intéresse effectivement Staline au premier chef.
Laura Pettinaroli, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les enjeux religieux, mais surtout politiques de cette conférence de Moscou de 1948?
Alors, les enjeux, vous avez raison de le souligner, il y a à la fois des enjeux religieux et politiques. Du point de vue des enjeux religieux, ils sont multiples. En tous les cas, pour le patriarcat de Moscou, il s'agit de se réaffirmer, après avoir été très très affaibli sur la scène de l'orthodoxie, tout simplement depuis 1917, de se réaffirmer, et il a le projet, qui est très important, en 1947, carrément de rassembler un concile panorthodoxe qui rassemble tous les responsables de l'orthodoxie pour traiter des grandes questions qui sont en suspens, le calendrier, le rapport aux autres églises chrétiennes, davantage de cohésion, de circulation au sein du monde orthodoxe. Donc toutes ces questions sont à l'ordre du jour des 47, mais ça ne fonctionne pas en 47 par l'opposition d'autres églises orthodoxes, celle de Grèce. À l'époque, on est dans un contexte de guerre civile, où l'anticommunisme, du coup, est très fort en Grèce. Et puis, du côté du patriarcat de Constantinople, qui considère que s'il y a un concile, c'est à lui de le lancer. Et donc, finalement, c'est dans ce contexte-là, vous voyez, de tension inter-orthodoxe, finalement, qu'on aboutit à une rencontre en mode mineur, celle d'une une sorte de célébration en juillet 1948, du 500e anniversaire de l'autocéphalie, de la proclamation de l'autocéphalie de 1448, donc de cette indépendance de l'Église orthodoxe russe. Voilà, donc pour les enjeux religieux et pour les enjeux politiques. Alors on va dire qu'il y a des aspects de politique aussi religieuse, parce que 1948 c'est un moment important pour l'histoire internationale du religieux. Quelques semaines plus tard est prévue, donc en août 48, est prévue la réunion fondatrice du Conseil œcuménique des Églises à Amsterdam, une sorte de fédération des Églises chrétiennes. Donc il y a cette actualité qui est tout à fait importante. Et puis évidemment au niveau politique, la politique internationale, c'est ce qui est davantage connu, c'est-à-dire cette présence de plus en plus prégnante de l'influence soviétique en Europe orientale. On pense au coup de Prague au début de l'année 48 ou au début du blocus de Berlin en juin 48. Donc une situation de tension de plus en plus nette, on va dire, sur le front de la guerre froide. Une guerre froide qui est en train de se cimenter véritablement.
Alors justement sur la guerre froide, il y a un point qui est très intéressant. Je voudrais que vous nous en disiez peut-être quelques mots. C'est que vous rappelez tout ce que je dis, moi, de mon côté, je l'ai appris de votre plume. Vous avez notamment écrit un long article sur ce sujet qui est absolument passionnant. Et vous rappelez notamment qu'entre les deux guerres, certaines églises d'Europe orientale, autrefois dépendantes de Moscou à l'époque du tsarisme, s'étaient rapprochées du patriarcat de Constantinople, étaient devenues autocéphales, c'est le cas de l'église d'Estonie, de Pologne, de Lettonie, et avec le retour du patriarcat de Moscou et la nouvelle expansion soviétique, ces églises vont revenir dans le giron de Moscou. Mais il y a une église qui va faire exception, c'est la Finlande, qui va parvenir à maintenir le statu quo. Cette fameuse finlandisation dont on parle dans le domaine géopolitique, c'est-à-dire une forme de neutralité subie, on va la voir en réalité dans le monde orthodoxe.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait fascinant d'observer finalement cette forme de cohésion, c'est-à-dire que les chronologies entre les chronologies politiques ou géopolitiques et les chronologies religieuses du point de vue de l'autocéphalie, on le voit au XIXe siècle avec des autocéphalies qui suivent ou qui précèdent des indépendances nationales, d'État-nation, et puis on le voit aussi dans ces transformations de l'entre-deux-guerres, vous l'avez rappelé, avec des églises qui deviennent autocéphales, mais en fait qui reçoivent leur indépendance d'une autorité antérieure, mère de l'église mère de Constantinople, et puis qui vont se rapprocher justement du patriarcat de Moscou soit pendant la Seconde Guerre mondiale, soit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec cette influence géopolitique majeure du côté russe et soviétique. Et le cas finlandais est un excellent exemple pour montrer que la situation, qu'on peut trouver aussi des compromis. Il y a aussi cette part de compromis, de négociation, que tout n'est pas si figé que cela, et que même dans les discussions, on va dire les plus peut-être les mots les plus durs à l'égard de l'Occident qu'ont pu avoir les responsables orthodoxes et le patriarcat de Moscou à la fin des années 40, malgré tout, lorsqu'on regarde bien les sources, il y a toujours un appel à la fraternité, à la réconciliation qui reste présent en horizon.
Oui, et les charges d'ailleurs sont fortes. Hein. Vous rappelez dans votre article qu'on parle à cette conférence de Moscou de l'impérialisme du Vatican. On évoque le lien entre fascisme et papauté. La charge est très forte. Antoine Arjakovsky, c'est intéressant de voir comment, là encore, le monde orthodoxe suit la géopolitique générale d'une certaine manière.
Complètement. 48, c'est aussi 2 ans après la destruction de l'église gréco-catholique ukrainienne en 1946. Et ça, ça a fait partie de ce concile de Moscou qui a été organisé par le nouveau patriarche pour avaliser cette situation. Et pour miner l'autorité du patriarcat de Constantinople, c'est quand même ça le but de ce concile, de cette rencontre de 48. Je précise quand même que l'Église de Finlande, elle faisait partie du monde démocratique, elle faisait partie du monde libre. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'était que les églises démocratiques du monde libre, elles étaient sous Constantinople, tandis que celles qui étaient sous domination communiste, elles ont relevé du patriarcat de Moscou.
Merci infiniment en tout cas Laura Pettinaroli d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle notamment que vous avez participé à un ouvrage collectif qui s'intitule Autocéphalie, l'exercice de l'indépendance dans les églises slaves orientales dans la collection de l'École française de Rome. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin Laura Pettinaroli depuis l'Italie. On va prendre la direction de la Macédoine du Nord. Le 24 mai dernier, il y a quelques jours, l'église de Serbie a accordé l'autocéphalie à l'archevêché d'Ohrid de l'église de Macédoine du Nord. On va y revenir.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous avons aujourd'hui l'occasion de couronner par la grâce divine le processus que nous avons entamé et qui a été en fait en grande partie réalisé par notre concélébration de la Sainte Liturgie à Skopje. Ce qui existe déjà entre nous est l'unité, celle qui a été détruite pendant une période et qui a été rétablie, puis est allée un pas plus loin dans l'esprit de l'Église à travers les siècles. Il s'agit du fait que l'Église de Macédoine, l'archevêché d'Ohrid, n'a pas seulement les conditions, mais la possibilité et la nécessité de s'organiser dans le contexte d'une Église autocéphale.
Voilà, le patriarche Porphyre qui a remis le tomos à l'archevêque de Macédoine et d'Ohrid Stéphane en la cathédrale Saint-Michel de Belgrade, une décision inattendue puisque l'église s'est déclarée unilatéralement indépendante il y a près de 60 ans, en 67, sans jamais avoir pu obtenir l'aval de l'église mère, seule légitime à déclarer l'autocéphalie. En tout cas, c'est la position du patriarcat de Moscou. Bonjour, Goran Sekulovski.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, chercheur associé au laboratoire Géographie Cité. Alors, je rappelais cet événement du 24 mai dernier en la cathédrale Saint-Michel de Belgrade, ce tomos étant cette charte patriarcale qui confirme officiellement le statut autocéphale canonique. Que vous inspire ce geste? Est-ce que vous vous y attendiez à cette reconnaissance de l'autocéphalie de l'Église orthodoxe de Macédoine?
Il faut dire que cet acte de reconnaissance pris par l'Église serbe peut-être lu comme un geste très fort pour mettre fin à plus d'un demi-siècle d'attention. Et bien sûr, c'est le premier avantage, c'est surtout le peuple qui longtemps est resté dans une situation de schisme. Donc le schisme, c'est vraiment être séparé carrément du corps de l'Église orthodoxe. Et je pense qu'il y a le pire, ce qui peut arriver à une Église, d'être dans une rupture alors qu'on confesse la foi orthodoxe, on suit les dogmes de l'Église orthodoxe, on célèbre la liturgie alors qu'on peut pas concélébrer avec nos frères et on est séparé carrément du corps. Donc pour moi, dans un premier temps, il faut lire ça comme un geste très fort. Et bien sûr, après, il y a tous les enjeux qui sont autour, mais la première condition, c'était de rétablir cette communion avec l'Église orthodoxe de Serbie et par la suite discuter les autres éléments comme l'autocéphalie. Ouais. Donc l'autocéphalie en soi n'était pas un objectif, n'était pas un but, mais retrouver la communion.
Est-ce que Goran Sekulovski, c'est un événement qu'il faut relier à la guerre en Ukraine ?
Je pense que c'est un événement qu'il faut, entre autres, relier à la guerre en Ukraine. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs pourparlers, négociations dans le passé qui n'ont pas forcément abouti. Il y a notamment les débuts des années 90, après la dissolution de la Yougoslavie, qui a abouti à un accord de Niche qui a été accepté juste par une partie, petite partie du clergé en Macédoine, qui a abouti à une église autonome de l'archevêché d'Ohrid. Après, il y a d'autres médiateurs comme l'archevêque de Tirana, Anastasios, qui était envoyé par d'ailleurs le patriarche Bartholomé pour trouver une solution entre les deux églises qui n'ont plus, il a rendu ce mandat, ça n'a pas abouti. Et il faut dire que les choses sont ouvertes, principalement après la guerre en Ukraine en février 2022. Pour moi, ça, c'est l'une des premières raisons. Une deuxième raison, il faut pour moi lire aussi dans cela dans le contexte d'initiative qu'on appelle Open Balkan ou Balkan Libre. C'est une initiative entre la Serbie, la Macédoine et l'Albanie de trouver une sorte de collaboration régionale, parce que finalement ils ont constaté qu'il n'y a pas une grande solidarité à l'échelle internationale et surtout européenne. D'ailleurs, le président serbe disait que l'Union européenne c'était un conte de fées sur le papier, et donc c'est pour cette raison qu'ils ont décidé d'abord d'ouvrir une sorte d'abord d'une zone mini Schengen, et c'est une initiative qui s'est transformée récemment à initiative régionale Open Balkan. L'idée n'était pas de se substituer à l'adhésion à l'Union européenne, mais c'était un moyen d'accélérer l'adhésion et d'exploiter le potentiel existant entre les différents pays. Et l'idée, c'était justement d'oublier ce qui s'est passé, de résoudre rapidement les obstacles qui pesaient du passé, dont pour moi c'était l'autocéphalie de Macédoine.
Oui, mais alors, Goran Sekulovski, il y a autocéphalie et autocéphalie. Là, c'est le patriarche serbe, Porphyre, qui permet cette autocéphalie. Est-ce qu'il faut interpréter ce geste comme étant une forme d'alignement du monde orthodoxe macédoine sur plutôt la position de Moscou, puisque du côté de Moscou, on considère que c'est à l'église à laquelle on est rattaché qui doit accorder l'autocéphalie, alors que du côté de Constantinople, on considère que c'est à Constantinople que revient l'autorité de concéder l'autocéphalie. Alors est-ce que j'interprète correctement les choses ou il faut nuancer ?
Je pense qu'il faut nuancer. Mmh. Il me semble que le cas de l'église de Macédoine du Nord, c'était vraiment un cas d'école de l'octroi de l'autocéphalie. À la différence d'Ukraine, où l'autocéphalie a provoqué une rupture entre Moscou et Constantinople, on voit qu'avec le cas de la Macédoine, cette autocéphalie, donc d'abord reconnue par l'église de Serbie, a été suivie aussi par le Moscou. Et là, hier, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une célébration d'une liturgie, la première après tant de décennies, à Istanbul, donc à Constantinople, entre l'archevêque de Macédoine Stéphane et le patriarche de Constantinople. Donc on voit qu'avec la Macédoine, il y a quand même, on réussit à suivre un cas d'école d'autocéphalie où le premier pas, c'était même désigné par le patriarche de Constantinople. Il fallait d'abord rétablir la communion entre Belgrade et Skopje, ce qui était le cas, et comme c'est une église qui était sur le territoire canonique, si vous voulez, de l'église orthodoxe de Serbie depuis 1920, donc plus de 100 ans, il était tout à fait normal que c'est un peu le patriarche de Serbie qui octroie cette autocéphalie, qui d'ailleurs, il faut pas oublier, doit être validé, accepté et tamponné par le patriarche de Constantinople. Là-dessus, il n'y a pas de doute que la décision finale, cet acte juridique
reviendra à Constantinople. Reviendra à Constantinople. Antoine Arjakovski, ce qu'on entend, c'est qu'au fond, on est là dans une autocéphalie négociée d'une certaine manière, ce qui est quand même assez rare.
Oui, c'est assez rare, mais enfin, ça a quand même mis un demi-siècle, on est d'accord là-dessus.
Soit, mais quand on regarde la longue histoire, souvent les autocéphalies sont le produit d'une très forte tension, voire carrément conflit.
Voilà, mais bon, on parle beaucoup de conflits, mais il faut comprendre que l'ecclésiologie orientale, qui était d'ailleurs l'ecclésiologie des premiers siècles de l'Église, c'est des églises locales qui sont en communion dans le temps et dans l'espace, et il faut un système de reconnaissance mutuelle. Et là, pour la Macédoine, on a la reconnaissance de l'Église mère et la reconnaissance du patriarcat œcuménique de Constantinople. Donc c'est ça qu'il faudrait faire pour d'autres églises. Et c'est vrai que c'était important parce que on voit bien qu'il y a une pression politique de la Russie sur la Serbie. Lavrov a voulu se rendre à Belgrade. Les Serbes ont interdit. Et les Macédoniens aussi. Donc ça veut dire que chacun comprend bien qu'il y a une dimension géopolitique. Il faut se défendre de l'influence impérialiste de Moscou. Novara. Стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ осіяла, над вертепом звізда ясна, увесь світ осіяла. А цуж з тою дєчино czynili braciszkowie mili, że się nam kwili, zaśpiewajmy mu wesoło i obróćmy się z nim w koło. Li, 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 laj, li, 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 laj.
Un grand merci à nos invités. Goran Sekulovski, qui est avec nous à l'instant par téléphone, qui est auteur notamment de L'échiquier macédonien, qui était paru aux éditions du Cerf. Également aux éditions du Cerf, Qu'est-ce que l'œcuménisme ? Antoine Arjakovski, c'est un ouvrage que vous venez de publier, qui est sorti en mars dernier. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin, de nous avoir éclairé sur cette géopolitique du monde orthodoxe.
Merci.
On poursuivra toute cette semaine, donc restez à l'écoute. Dans quelques instants, ça sera Olivia Gesbert et La Grande Table, mais d'abord, la revue de presse internationale.
La revue de presse internationale, Camille Marigaud.
Et Camille, vous revenez ce matin sur la disparition très remarquée au Brésil de deux hommes victimes d'une guerre qui fait rage en Amazonie.
Guerre, c'est le mot utilisé par le quotidien espagnol El País qui revient sur le sort du journaliste britannique Dom Phillips et de Bruno Pereira, indigéniste brésilien. Les deux amis ont disparu il y a une semaine alors qu'ils préparaient un livre sur la protection de l'environnement dans cette région du nord-ouest brésilien. Ils sillonnaient la vallée de Yavari qui abrite les tribus les plus isolées du monde à la frontière avec le Pérou et la Colombie. Une zone décrite par El País comme le point de convergence entre ceux qui tentent d'y préserver d'extraordinaires richesse naturelle, de protéger les indigènes et ceux qui s'enrichissent par le pillage de la forêt tropicale et le trafic de drogue. Et c'est donc là que Dom et Bruno ont été vus pour la dernière fois alors qu'ils revenaient en bateau d'un déplacement sur un poste de sécurité géré par les indigènes. C'est là qu'ils auraient aussi été menacés par des braconniers. On a appris hier soir que certaines de leurs affaires avaient été retrouvées près de la maison d'un pêcheur, unique suspect de l'affaire, actuellement en garde à vue. Mais tout porte à croire que les deux hommes ne sont plus de ce monde. Leur disparition est ainsi devenue un chapitre du débat international sur l'Amazonie, estime le quotidien brésilien Au Globo. Onde estão Dom et Bruno? Où sont Dom et Bruno? La question a agité le Brésil et le Royaume-Uni ces derniers jours où des rassemblements ont été organisés pour réclamer la lumière sur leur disparition. Le Guardian, avec lequel Dom Phillips collaborait depuis longtemps, a suivi plusieurs groupes autochtones qui connaissaient bien les deux hommes et qui les ont cherchés inlassablement ces derniers jours, fouillant la rivière et ses abords armés de machettes et de petits fusils de chasse. Un de ces indigènes évoquant un tourbillon de colère et de tristesse à mesure que les chances de les retrouver s'amenuisaient. Dom et Bruno, victimes, nous le disions, de cette guerre acharnée qui se livre discrètement derrière les paysages idylliques de l'un des coins les mieux préservés de l'Amazonie, commente El País. Les tensions dans cette vallée Yavari, grande comme le Panama, se sont accrues ces dernières années. Les braconniers y sont de plus en plus nombreux, cautionnés par des autorités fédérales brésiliennes au mieux absentes, au pire volontairement sourdes, muettes et aveugles face à la situation. La loi interdit de chasser et de pêcher dans cette zone très protégée. Seules les populations indigènes qui y vivent peuvent le faire. Mais ceux qui pêchent pour gagner leur vie ont peu à peu été rejoints par des gangs criminels qui financent des expéditions à grande échelle. Une seule d'entre elles peut rapporter jusqu'à 3 000 $, indique un historien local à Al Jazeera, parlant d'une véritable mafia du poisson qui pourrait bien être à l'origine de ces deux disparitions. Ce même historien confie ainsi que parmi ces trafiquants, beaucoup étaient en colère contre Bruno Pereira. Ce dernier avait dirigé le bureau local de l'agence gouvernementale indigène. Il luttait contre la pêche illégale, car dans la réserve de Yavari, les gardes indigènes ne remplacent pas seulement l'État, ils surveillent aussi l'État, explique El País, en collectant des informations pour documenter ces braconnages. Ils tentent de faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils agissent. De simples poils à gratter pour les trafiquants, leur mobilisation s'est ainsi transformée en coup de pied dans un nid de guêpes. La tête de Pereira aurait ainsi été mise à prix, selon Au Globo. Dans un de ses éditoriaux, Le Quotidien dénonce la criminalisation de l'Amazonie et de ses habitants par ses factions criminelles, elles-mêmes en concurrence avec les autorités fédérales, sans oublier les réseaux d'accaparement de terres et autres déboiseurs ou mineurs illégaux, tous confortés par la rhétorique de Jair Bolsonaro. Le président d'extrême droite, dont l'arrivée au pouvoir en 2019, explique El País, a signé le retrait des agences de surveillance environnementale créées pour protéger ses peuples autochtones. La mort par balle quelques mois plus tard d'un responsable d'une de ces agences après une saisie de marchandises illégales dans cette même vallée de Yavari avait été comprise comme un avertissement. 3 ans plus tard, précise Al Jazeera, ce crime n'a toujours pas été élucidé.
Et les anciens restaurants McDonald's qui rouvrent à Moscou, mais sous pavillon russe, c'est une page de l'histoire récente du pays qui se tourne.
À l'instar de Starbucks ou encore Coca-Cola, la mythique chaîne de restauration rapide américaine avait fermé ses portes en Russie il y a 3 mois en réaction à la guerre lancée contre l'Ukraine. Hier, jour de fête nationale, une dizaine de restaurants ont ainsi rouvert sous un nouveau nom, Vkushno-i-Toshka, que l'on peut traduire par « délicieux, c'est tout » ou bien « délicieux, un point, c'est tout ». Les avis divergent encore. Nouveau nom, nouveau logo, nouvelle carte aussi. Fini le Big Mac et c'est d'ailleurs le principal défi pour le nouveau propriétaire russe de la franchise qui confie au New York Times espérer faire mieux et meilleur que l'historique sandwich de la marque américaine désormais interdit. Un correspondant du journal indépendant russe Medusa, désormais censuré dans le pays, a quand même visité cette ouverture place Pushkin à Moscou. Hormis le fait qu'il déplore n'avoir pas pu acheter ses plats habituels, il constate surtout qu'il n'y avait pas foule, en tout cas pas celle de 1990, hein, quand le tout premier restaurant McDonald's avait ouvert ses portes en Russie sur cette même place Pushkin. C'est aussi le constat de Steve Rosenberg de la BBC. Il était là il y a 32 ans, dans la queue, où il fallait, raconte-t-il, attendre près de 3 heures pour entrer et être servi. C'était alors tout un symbole, celui de l'ouverture de la Russie au reste du monde, à la culture occidentale. Aujourd'hui, dit-il, le départ de McDonald's et son remplacement par une enseigne russe est également un symbole qui montre comment le pays et l'Occident s'éloignent l'un de l'autre. Oublier le dégel entre les puissances soviétiques et américaine, abonde le Washington Post. L'événement d'hier remet tout au congélateur. Concluons avec cette citation de Lénine, reprise par le Guardian au sujet de cette réouverture à la sauce russe. Il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines où des décennies se produisent. C'est visiblement ce à quoi on assiste depuis le 24 février dernier.
Merci beaucoup Camille Marigo pour cette revue de presse internationale qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.radiofrance.com. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.